Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Ce film soit supprimé parce que nous n'acceptons pas, nous ne tolérons pas qu'on se moque de la Très Sainte Vierge Marie, c'est notre mère, et il n'est pas question de blasphémer, il n'est pas question de faire des sacrilèges comme tous ces voyous en ont fait ce soir avec, hélas, la permission de la police. Je ne comprends pas qu'on puisse laisser faire ainsi.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Une nouvelle loi sur la diffamation vient d'entrer en vigueur en Irlande à compter du mois de janvier dernier. Son article 36 définit un délit de blasphème qui peut être puni d'une amende allant jusqu'à 25 000 euros. La loi s'applique désormais à toutes les religions et pas seulement au catholicisme qui est dominant dans ce pays. Elle définit le blasphème de cette façon. Des propos grossièrement abusifs ou insultants sur des éléments considérés comme sacrés par une religion et choquant ainsi un nombre substantiel de fidèles de cette religion. On a appris à cette occasion, si on ne le savait pas, que le blasphème est aussi un délit à part entière en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, en Italie, au Portugal, aux Pays-Bas. Et puis même au Danemark, oui, au Danemark, qui s'est illustré récemment dans l'affaire retentissante des caricatures qui ont provoqué de si violentes réactions dans une partie du monde musulman et suscité tout récemment une tentative d'assassinat, heureusement inaboutie, sur l'un des dessinateurs concernés. Le blasphème, voilà bien une notion chargée d'histoire, mais qui n'en est pas forcément plus claire pour autant, dans sa définition comme dans sa portée. Assistons-nous à une résurgence venue du fond des âges, répondant peut-être à tel ou tel débordement contemporain, ou bien à un effet de rémanence destiné à se dissiper bientôt en conséquence des progrès de la liberté d'expression. Alain Cabantous, professeur à la Sorbonne à Paris 1, a publié naguère, voici une douzaine d'années, une histoire du blasphème en Occident. C'est assez dire que sa présence devant moi, ce matin, s'imposait.
Voici la ronde des jurons qui chantaient clair, qui dansaient rond. Quand les Gaulois de bonne aloi du franc-parler suivaient la loi, jurant par là, jurant par-ci, jurant à langue raccourcie, comme des grains de chapelet, les joyeux jurons défilaient. Tous les morts bleus, tous les ventres bleus, les sacres bleus et les cornes gidouillent ainsi parbleu que les jarnies bleues et les pâles semblent. Tous les cristis, les ventres saints gris, les parmabarbes et les noms d'une pipe ainsi pardis que les sapristis et les sacristis. Sans oublier les jarnicotons, les scrogneugneux et les bigrés, les bougres, les saperlottes, les crénons de nom, les pestes et poignantres, fichtres et foutres, tous les bons dieux, tous les vertus dieux, tonnerre de Brest et saperlipopette, ainsi par Dieu, que les jarnidieux et les passes, que Dieu, quel pitié, les charretiers ont un langage châtillé. Les harangères et les mégères ne parlent plus à la légère. Le vieux catéchisme poissard n'a guère plus cours chez les hussards. Ils ont vécu des profondis, les joyeux jurons de jadis. les morbleus, tous les ventres bleus, les sacres bleus et les cornes gilouillent ainsi parbleu que les jarnies bleues et les pâles semblent. Tous les cristis, les ventres saints gris, les parmabarbes et les noms d'une pipe ainsi pardis que les sapristis et les sacristis. Sans oublier les jarnicotons, les scrogneugneux et les bigrés, les bougres, les saperlates, les crénons de nom, les pestes et pois, diantres, fichtres et foutres, tous les bons dieux, tous les vertus dieux, tonnerre de Brest et saperlipopette, ainsi par Dieu, que les jarnidieux et les passes que Dieu.
Alain Cabrantous, bonjour.
Bonjour Jean-Louis Jeunet.
C'était Georges Brassens qui chantait en 1958 la ronde des jurons. Voilà qui me paraît nous introduire tout droit vers une interrogation sur le sens même du mot blasphème. Le juron, le blasphème, ça n'est pas la même chose.
Tout à fait. C'est une illustration assez extraordinaire pour votre émission, au moins pour deux raisons. La première, c'est que Brassens dit bien que cet ensemble d'expressions n'a plus cours aujourd'hui. Et repose le problème, justement, de la question du sacré et du religieux dans nos sociétés contemporaines. Aujourd'hui, on ne s'exprime plus de la même façon.
Quand vous avez un sujet de mécontentement, vous ne dites pas « ventre saint gris » ou « sac à papier ».
Et voilà. Et même les Québécois, aujourd'hui, ne disent plus « sacristie », par exemple, ou « tabernacle », ou rarement.
Au tabernacle, rarement. Si, quand même.
Enfin... Tabernacle, encore un peu. Mais enfin, ils ne savent peut-être plus à quoi ça correspond.
Tout se perd. Et pourtant, en fait, rien ne se perd.
Voilà, tout à fait. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, dans cette suite, dans cette espèce de taxinomie, Brassens nous donne une illustration extraordinaire de ce que peuvent être un ensemble d'expressions qui sont toujours qualifiées par une autorité et qui peuvent être soit des blasphèmes, soit des jurons, soit des jurements, soit des euphémies. Et Brassens emploie l'ensemble de cette palette. Quand il dit, par exemple, les jarnidieux, les pâles sang bleu, ça c'est un blasphème.
Ça veut dire par le sang de Dieu, en fait.
Par le sang de Dieu, ou bien jarnidieu, bien sûr, jeronidieu. Il emploie aussi des euphémies. Les euphémies, c'est l'utilisation du blasphème caché, si je puis dire. Quand on dit nom d'une pipe, ça veut dire nom de Dieu, mais on le cache, ou par ma barbe, par exemple. Hein. Il emploie aussi des jurements par Dieu, c'est-à-dire un jurement, c'est prendre Dieu à témoin de quelque chose. Hein. Et puis, il emploie aussi des jurons, alors... scrogneugneux, bougre, bigre, etc. Donc il y a là toute la panoplie de ce que peuvent être des expressions langagières qui étaient considérées comme marginales et comme condamnables.
Dites-nous l'origine du mot blasphème.
Alors c'est une origine grecque qui signifie au départ toute parole de mauvais augure, tout mot susceptible de faire du tort à une personne ou à une divinité.
Parce que du temps des anciens, au fond, ce qu'on reprochait aux blasphémateurs, c'était de risquer d'attirer la foudre, le mécontentement des dieux sur la cité ou sur un groupe humain.
Oui, tout à fait. Mais ça, c'est quelque chose qui a perduré. Mais en même temps, dans le blasphème, disons, de la civilisation chrétienne, il s'agit plutôt, tel que le définissent les théologiens, d'attribuer à Dieu ce qu'il n'est pas, ou de ne pas lui attribuer ce qu'il est. Par exemple, si je dis « nom de Dieu », ce n'est pas un blasphème, au moins dans la théologie classique. Mais si je dis « Dieu n'est pas bon », ça c'est un blasphème.
Et c'est un double volet, dire des choses fausses sur Dieu et insulter Dieu, ce n'est pas la même chose.
Insulter Dieu, ça peut être le signe aussi d'une croyance en Dieu. Dire des choses fausses sur Dieu peut entraîner, chez certains, une condamnation d'athéisme, par exemple.
À propos de cette incertitude des définitions, on ne peut pas ne pas être frappé par le flou de la loi irlandaise.
Ah oui.
Des propos grossièrement abusifs. Abusifs, qu'est-ce que c'est qu'être grossièrement abusif? Sur des éléments considérés comme sacrés, choquants par une religion et choquant ainsi un nombre substantiel, qu'est-ce que c'est qu'un nombre substantiel, de fidèles de cette religion?
Alors, évidemment, là, on touche toujours à la même question. C'est-à-dire que définir le blasphème, notamment de la part, aujourd'hui, de l'institution politique, entraîne un flou dans la définition qui peut, d'un côté, permettre au juge d'avoir aussi une interprétation extrêmement laxiste, mais inversement, qui peut permettre au juge d'avoir une interprétation extrêmement rigoriste. Donc c'est quelque chose de toujours dangereux, ce genre de tentative de définition. Et ce que vous dites à propos de l'Irlande, on le retrouve dans, je dirais, les législations des pays que vous avez cités tout à l'heure, c'est-à-dire ce flou qui permet d'élargir les condamnations, ou bien au contraire de considérer que bon, telle ou telle personne qui peut être soupçonnée de blasphème n'entre pas dans ces catégories.
Dans le cas de la France, puisque je n'ai pas cité la France parmi les pays concernés par le délit de blasphème, on peut rappeler qu'il y a une exception, c'est l'Alsace et la Moselle, puisque la loi de Bismarck y vaut encore et qu'elle est très sévère.
Tout à fait, la loi de 1861 est une loi extrêmement stricte.
Le blasphème peut être puni par 3 ans de prison.
Il me semble, enfin, depuis le retour de l'Alsace et de la Lorraine à la France, après la guerre de 1914, cette loi n'a pas été appliquée, mais...
Si elle l'a été, on nous le dira, j'en suis
sûr, absolument.
Par des courriels abondants. Et on ne peut pas dire pour autant qu'en France, il n'y ait pas de législation qui protège les croyances, puisqu'il y a une loi sur la liberté de la presse qui punit les provocations, je cite, à la discrimination, à la haine ou à la violence liée à l'appartenance à une religion déterminée. Mais il n'y a pas la notion de blasphème.
Non. Ce qu'on retrouve cependant, c'est la notion d'ordre public. Et c'est la notion de trouble à l'ordre public qui est sous-jacent à l'ensemble des définitions ou des propositions que vous avez rappelées tout à l'heure ou à l'instant.
Ce qui signifierait qu'au cours des âges, on serait passé d'une préoccupation d'abord théologique à une préoccupation sociale.
Absolument.
Je voudrais vous faire entendre, ce sera la première archive, un propos de Philippe Val de 1996, novembre 1996. Il était à l'époque directeur de Charlie Hebdo et il avait eu un titre extrêmement violent lors de la visite du pape Jean-Paul II en France. Écoutez cette réaction, cette justification qu'il donne dans l'émission Tire ta langue, produite par René Elkaïm Bollinger sur France Culture.
On ne peut parler de blasphème que dans un monde où la croyance a une importance aussi grande que le savoir, voire plus grande que le savoir. Il n'y a de sacré que le droit de l'homme.
Alors, à Charlie Hebdo, est-ce qu'on peut dire que vous êtes confronté, vous avez pratiqué ce blasphème, entre guillemets, puisque, évidemment, il n'y a pas d'existence, au fond, pour vous. Parce que c'était aussi
oui, on est
de
accusé
la provocation.
De ça. On est accusé de ça. Ce qui est très, très étonnant, c'est que aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir ont fait en sorte qu'à la 17e Chambre correctionnelle de Paris, soit nommé un président, une présidente en l'occurrence, qui reconnaît le blasphème comme un délit et qui nous condamne pour ça, parce que j'ai dit du mal du pape. Le titre est provocateur et le papier, lui, est de l'ordre du raisonnement, mais c'est un titre violent, mais le langage est parfois violent et vous savez, le langage religieux aussi est peut-être violent.
Bienvenue au pape de merde, par Philippe Val, Charlie Hebdo du 3 juillet 1996.
Il faut rappeler à Alain Cabantous que la 17e chambre, c'est celle qui juge les délits de presse. Philippe Val parle d'un blasphème. Est-ce que c'est vraiment un blasphème?
Absolument pas.
Levez le sourcil.
Non, ce n'est pas un blasphème. Alors évidemment, c'est moins glorieux de dire que c'est une insulte que de dire que c'est un blasphème. Mais pape de merde, c'est pas un blasphème du tout.
Vous placez la gloire où vous voulez.
Absolument. Alors, ce qui paraît quand même intéressant dans l'expression de Philippe Val, deux choses. La première, c'est qu'il parle de la violence du langage. Et effectivement, le lien entre blasphème et violence est un lien qui est extrêmement étroit, à la fois dans son expression, dans son contexte. Et Philippe Val a raison de dire que la violence du langage n'est pas réservée à la violence au langage polémique, mais aussi au langage religieux. Et effectivement, il y a une violence dans l'expression blasphématoire. Et la seconde chose qui me paraît intéressante, c'est qu'il emploie quand même le mot de sacré. Là, il me semble qu'il touche un point essentiel.
Les droits de l'homme comme sacrés contemporains.
Mais bien sûr, et là je le suis parfaitement, c'est-à-dire qu'il est bien évident qu'aujourd'hui, on peut parler, me semble-t-il, de blasphème à l'égard de phénomènes de sacralité. Alors la sacralité peut être la référence à Dieu, mais ça peut être la référence à des valeurs qui peuvent ou qui risquent d'être communes à l'humanité. Et on peut très bien considérer que des gens qui insultent telle ou telle part des droits de l'homme sont des blasphémateurs.
Ça élargit énormément la notion. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette formulation de caractère religieux pour définir ce qui est insultant pour des...
Non, on n'en a pas besoin. C'est pas du tout. Ne me faites pas dire ce que je peux vous le dire.
Vous ne dites que ce que vous voulez à ce micro, je vous l'affirme.
Non. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que Val met bien en valeur, c'est le rapport entre, d'abord, violence et blasphème, et deuxièmement, entre sacré et blasphème. Du coup, son pape de merde n'entre pas dans cette catégorie-là.
Cela est bien noté. Alors, pour pouvoir juger mieux de cette utilisation, de cette signification largement floue, vous l'avez montré, nous venons de le montrer, mais peut-être arriverons-nous à plus de précision. Pour rendre compte de ce qu'est la spécificité d'aujourd'hui, il faut naturellement, comme d'ordinaire, remonter en arrière. C'est par exemple le règne de Saint-Louis, de Louis IX, Saint-Louis, qui a marqué très clairement un tournant. Il était d'une violence inouïe, ce Saint-Roi, contre les blasphémateurs. On a beaucoup arraché de langues, brûlé de lèvres, etc.
Je ne suis pas allé voir quelle a été l'application véritable du texte de Saint-Louis, qui est extrêmement dur, effectivement, tellement dur d'ailleurs que le pape lui demande d'édulcorer ce texte. Il n'empêche que, effectivement, il y a un développement considérable des textes royaux, donc des textes de la puissance publique, que ce soit d'ailleurs en France ou en Angleterre, contre le blasphème et les blasphémateurs à partir de la fin du XIIIe siècle.
C'est au XVIe siècle que vous voyez s'affirmer clairement la présence du blasphème comme un élément majeur de la place de la religion dans la société, la manière dont elle se comporte, dont ses responsables s'attribuent à eux-mêmes un devoir, une capacité de juger de ces choses.
Oui, parce que ce qui se passe au XVIe siècle, c'est un ensemble de phénomènes qui contribuent à développer cette question du blasphème. D'abord parce que les réformes sont là, et désormais il y a une contestation de la théologie et de la dogmatique catholique. Et de ce fait, les catholiques vont considérer que les protestants sont des blasphémateurs. Lorsque certains protestants, par provocation, ni par exemple la virginité de Marie, pour les catholiques, c'est un blasphème.
Bien donc le grand schisme du protestantisme ne fait qu'aiguiser, en somme, l'obsession panique de la souillure hérétique.
Et en même temps, deuxième élément, c'est la reconquête et la fin de la reconquête espagnole et la volonté de la part des Castillans d'éradiquer, je dirais, les mauvais croyants, y compris les juifs convertis ou les musulmans convertis. Et par conséquent, l'hérésie ou le soupçon d'hérésie va être un marqueur par l'intermédiaire du blasphème.
Avec, du même coup, une importance accrue de la dévotion à l'Eucharistie, à l'humanité du Christ. Et cela rend en particulier essentiel les serments prononcés sur l'une des parties de son corps. C'est désormais intolérable.
Absolument. Absolument. C'est-à-dire que quand on dit « par le sang de Dieu », par exemple, ou « par le corps de Dieu », il est bien évident qu'il y a là un blasphème. C'est une sorte d'incarnation qui est incomplète, une incomplétude de l'incarnation qui est présentée par ce type d'expression. D'où la transformation, hein, par le corps de Dieu. Alors, par le sang de Dieu, ça devient pas le sang bleu, Dieu étant remplacé par bleu.
On a beaucoup de signes à l'époque de cette crispation sur ces choses. Et par exemple, cette citation frappante de Jean Benedicti, théologien de la fin du XVIe siècle, qui dit « Ah, bon roi Saint-Louis, que dirais-tu si tu étais revenu en ce monde terrestre d'ouïr les horribles blasphèmes de la nation française dont les pères ont eu en si grande révérence le nom du Très-Haut Dieu ?» Et il achève « Où est aujourd'hui cette belle ordonnance par laquelle tu commandais jadis que les blasphémateurs eussent la langue percée d'un fer chaud. »
On retrouve là, les éléments fondamentaux, c'est-à-dire le contexte. Il est bien évident que s'il y a un développement de la législation contre les blasphémateurs au XVIe siècle, c'est en raison des ruptures confessionnelles dont je parlais à l'instant. On se rend compte que plus le pouvoir politique sera confirmé, sera affirmé, et moins cette législation sera réitérée. Progressivement, au cours du XVIIe siècle, il y a bien sûr des ordonnances contre le blasphème, mais ce sont des ordonnances qui sont, je dirais, beaucoup plus espacée qu'elle ne l'était au XVIe siècle. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le contenu de ces ordonnances varie. Il y a une espèce de progression quand même. La première fois, on est condamné, par exemple, à faire pénitence, la deuxième fois, une amende. Et puis, alors évidemment, s'il y a réitération, on commence à fendre la lèvre inférieure, puis la lèvre supérieure, et on termine par arracher la langue.
Vous dites qu'il y a une progression des punitions, et pourtant, un cas illustrissime, notamment à cause de Voltaire, est celui du chevalier de la Barre, qui a été exécuté en juillet 1766 pour comportement blasphématoire. Voilà la manière dont Voltaire, précisément, qui, à titre posthume, en tout cas, a crié son indignation à ce propos, raconte cette affreuse affaire. C'est une lecture de François Chaumette, en 1994.
En 1765, à Abbeville, le lendemain d'une nuit d'orage et de grand vent, on ramasse à terre sur le pavé d'un pont un vieux crucifix de bois vermoulu qui, depuis 3 siècles, était scellé au parapet. Qui a jeté bas ce crucifix? Qui a commis ce sacrilège? On ne sait. Peut-être un passant, peut-être le vent. Qui est le coupable? L'évêque d'Amiens lance un monitoire. Voici ce que c'est qu'un monitoire. C'est un ordre à tous les fidèles, sous peine de l'enfer, de dire ce qu'ils savent ou croient savoir de tel ou tel fait. Injonction meurtrière du fanatisme à l'ignorance. Le monitoire de l'évêque d'Amiens opère. Le grossissement des commérages prend les proportions de la dénonciation. La justice découvre, ou croit découvrir, que dans la nuit où le crucifix a été jeté à terre, 2 hommes, 2 officiers, nommés l'un Labarre, l'autre Détalonde, ont passé sur le pont d'Abbeville, qu'ils étaient ivres et qu'ils ont chanté une chanson de corps de garde. Le tribunal, c'est la sénéchaussée d'Abbeville. Les sénéchaux d'Abbeville valent les capitouls de Toulouse, ils ne sont pas moins justes. On décerne 2 mandats d'arrêt. Détalonde s'échappe, Labarre est pris. On le livre à l'instruction judiciaire. Il nie avoir passé sur le pont, il avoue avoir chanté la chanson. La sénéchaussée d'Abbeville le condamne, il fait appel au Parlement de Paris, on l'amène à Paris. La sentence est trouvée bonne et confirmée. On le ramène à Abbeville, enchaîné. J'abrège. L'heure monstrueuse arrive. On commence par soumettre le chevalier de la Barre à la question ordinaire et extraordinaire pour lui faire avouer ses complices. Complices de quoi? D'être passé sur un pont et d'avoir chanté une chanson. On lui brise un genou dans la torture. Son confesseur, en entendant craquer les os, s'évanouit. Le lendemain, le 5 juin 1766, on traîne la Barre dans la grande place d'Abbeville. Là flambe un bûcher ardent. On lit sa sentence à la Barre, puis on lui coupe le poing, puis on lui arrache la langue avec une tenaille de fer, puis, par grâce, on lui tranche la tête et on le jette dans le bûcher. Ainsi mourut le chevalier de la Barre. Il avait 19 ans.
Et sur le bûcher de la Barre, on a jeté un exemplaire du dictionnaire philosophique de Voltaire. On est surpris, rétrospectivement, c'est le moins qu'on puisse dire, de voir qu'en pleine lumière, au temps de pouvoir des philosophes, on n'a pas empêché un comportement aussi barbare.
Oui. On est d'autant plus surpris que des actes comme celui-là sont assez nombreux en France. Des profanations. C'est une profanation d'abord, avant d'être un blasphème, hein, l'affaire de la Barre. C'est un crucifix qui est mutilé. Alors bien sûr, ensuite, on s'apercevra que ces jeunes gens, lorsqu'ils se réunissaient le soir, pouvaient chanter des chansons anticléricales, voire même blasphémer. Mais initialement, c'est bien d'un sacrilège dont il s'agit. Or, on se rend compte que dans beaucoup d'autres endroits, eh bien, y a des mutilations de crucifix, et on n'en est pas arrivé là. Donc, il faut bien se rendre compte de plusieurs choses. Ce pauvre chevalier de la Barre a été pris dans des raies à la fois, de dimension locale et de dimension nationale, voire même internationale, qui l'ont complètement dépassé. Et dont il a été cette victime expiatoire dont parle Voltaire. La première chose, c'est un ensemble de rivalités à l'intérieur de cette petite ville d'Abbeville, entre différents pouvoirs, notamment entre sa tante qui était abbesse, et puis Soicourt qui était le maire, l'ancien maire de la ville. Mais ce qui est plus important, c'est que comme noble, il a le droit de faire appel devant le Parlement de Paris, ce qu'il fait. Et le Parlement de Paris vient d'expulser les jésuites.
Donc il était victime d'une terrible conjoncture.
Voilà, le Parlement de Paris a besoin de se refaire, si permettez-moi une nouvelle expression, une virginité religieuse, et de bien montrer qu'il est le défenseur de l'Église en dépit de cela. Et par conséquent, ce Parlement de Paris va être extrêmement sévère. En même temps, Louis XV vient de perdre son fils, le dauphin. Il a pu estimer que c'était un châtiment divin, et il demande, par l'intermédiaire de Maupoux, au Parlement de Paris, d'être extrêmement sévère. Et puis, 1666, c'est l'année de la fameuse séance de la flagellation, où le roi imprime son pouvoir sur les parlements. Il y a eu des révoltes de parlements, puisque les différents parlements commencent à vouloir s'estimer comme être les représentants de la nation, ce qui, évidemment, ils ne sont absolument pas. Louis XV, par ce discours très important, qu'on appelle la science de la flagellation, c'est au moment d'une fête religieuse, Louis XV a voulu, je dirais, imposer au Parlement sa vision d'une monarchie absolue de droit divin, en disant que c'était lui qui était le roi de France, c'était lui qui détenait le pouvoir et que le Parlement n'était rien sans lui. Enfin, dernière chose, quand je parlais de contexte international, il faut bien voir que ces années, à la charnière des années 60, il y a un ensemble de textes extrêmement importants qui ébranlent considérablement le christianisme. C'est le contrat social, c'est le dictionnaire philosophique, c'est de l'esprit d'Helvétius, c'est l'encyclopédie qui se développe. Autrement dit, là, on a une offensive intellectuelle extrêmement forte, et la barre est prise dans cet ensemble de choses.
Il serait la victime, en fait, expiatoire.
Complète.
Du progrès des Lumières et des philosophes.
Alors, oui, et la victime expiatoire aussi du comportement des parlementaires et de l'attitude de la monarchie.
C'est pourquoi, probablement, cela paraît tellement désuet, plus que d'autres comportements du temps, à nos yeux contemporains.
Oui.
Alors, je voudrais maintenant, dans le cours de cette émission consacrée au blasphème, Alain Cabantous, que nous voyons si dans certaines classes de la société, il n'y a pas un terreau particulièrement favorable au blasphème, ce qui d'ailleurs peut, dans certains cas, nous ramener aujourd'hui. Vous êtes grand spécialiste de la mer, on ne peut pas le dissimuler à nos auditeurs. Vous êtes le grand spécialiste de la mer, de la navigation. Et donc, je voudrais d'abord que nous nous consacrions à celle-ci, au monde des marins. Et je vais vous faire partir de Nantes, grand port s'il en fut, puisque c'est là que, en 1985, la réaction a été la plus vive du côté des catholiques intégristes à l'égard du film de Jean-Luc Godard qui s'appelait « Je vous salue Marie ». Nous allons entendre la réaction à la suite de la projection en salle de ce film, qui n'est pas en général considéré comme le chef-d'œuvre de Godard d'ailleurs, la réaction notamment de l'abbé Guépin, qui est une figure de proue du monde intégriste.
Le scénario est toujours le même. Chaque soir depuis une semaine, une poignée d'intégristes installe un hôtel improvisé devant le cinéma 14A. À travers prières et cantiques, ils veulent obtenir l'interdiction du dernier film de Godard, Je vous salue Marie, qui choque la foi de beaucoup d'entre eux. Seulement, les choses ont bien failli se gâter hier soir, avec l'intervention de punks armés de seaux d'eau, de boules puantes et de pétards. On a même échangé des coups. Et tout cela fait sourire, sans le climat d'intolérance qui entoure ce film.
Religion !
Vous l'avez vu ?
Non, je ne l'ai pas vu. Et je n'irai pas le voir, je n'irai pas donner de l'argent pour un film que je réprouve. Mais par contre, je connais des personnes qui me l'ont raconté. Dans les moindres détails, ça me suffit.
Godard veut-il une messe sous des horions ? En tout cas, tout ce tapage est une véritable bénédiction pour un film que la critique n'a pas salué comme un chef-d'œuvre, loin s'en faut. Il a déjà fait 3000 entrées au 14A, un bon score pour une ville comme Nantes. Je vous salue Marie, semble donc promis à une carrière commerciale inespérée. Ce n'est pas ce que voulaient les intégristes, mais ils n'ont pas l'intention de céder le terrain. Ils reviendront ce soir.
Nous attendons bien sûr une intervention de l'évêque de Nantes. Nous sommes très surpris qu'il ne soit pas encore intervenu devant un scandale pareil. Et bien sûr, nous attendons que ce film soit supprimé parce que nous n'acceptons pas, nous ne tolérons pas qu'on se moque de la Très-Sainte Vierge Marie. C'est notre mère et il n'est pas question de blasphémer, il n'est pas question de faire des sacrilèges comme tous ces voyous en ont fait ce soir avec, hélas, la permission de la police. Je ne comprends pas qu'on puisse laisser faire ainsi.
Nous étions le 6 février 1985, c'était un reportage de la télévision, un reportage de FR3 à Nantes. Alain Cabantous, quelles sont vos réactions devant cette archive?
Alors, on peut comprendre que le terme de blasphème soit utilisé là, puisque c'est une réinterprétation donc de la, à la fois de l'Annonciation et de la naissance de Jésus par Godard. Et ce qui est très intéressant par rapport à ça, ce sont deux choses. Les intégristes demandent l'intervention de la police, c'est-à-dire demandent l'intervention de la force publique. Au nom de quoi? Au nom de quelle loi? Et la deuxième, c'est qu'ils s'interrogent sur l'absence de réaction
de l'évêque
de Nantes. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Pourquoi? Parce que quelques années après, lorsque paraîtra le film de Scorsese sur la dernière tentation du Christ, Lustiger va intervenir. Même bruyamment.
Le cardinal archevêque de Paris.
Ouais, absolument. Or là, la question qui se pose, c'est de savoir si il est plus blasphématoire ou moins blasphématoire de la part des autorités ecclésiastiques de s'attaquer à la personne de Marie ou plutôt de s'attaquer à la personne de Jésus.
On en revient toujours à votre idée selon laquelle, dans le flou de la définition du blasphème, on a besoin d'autorités qui puissent en fixer la nature.
Le dernier point, c'est la question qui est tout à fait bien posée, c'est la question du rapport entre la liberté d'expression, la liberté artistique et les limites, l'absence de limites qu'elles doivent avoir dans une société contemporaine.
On n'imagine pas qu'une liberté d'expression puisse jamais être sans limites.
Bien sûr, bien sûr.
Simplement, la question est de savoir, évidemment, de la frontière. C'est...
Voilà. Et là, il s'agit d'une frontière qui est déterminée par la notion de blasphème. C'est une frontière totalement mouvante d'une période à une autre, d'un temps à un autre. Donc, cette référence-là, on le voit, est une référence qui ne tient pas.
Alors, je rappelle que nous étions dans un port à Nantes. Parlons de cette société spécifique des marins et aussi des soldats, où, dans l'époque que vous considérez, je peux dire que le juron et le blasphème fleurissent.
Oui, quand j'ai commencé à m'intéresser au blasphème, c'est parce que j'avais trouvé un certain nombre de références concernant les marins, justement. Et je me suis posé la question du blasphème à partir du monde de la mer. Ce qu'on retrouve effectivement dans les documents, dans les textes, notamment dans les textes normatifs, c'est un ensemble de figures de blasphémateurs qui sont récurrentes. Il y a bien sûr les marins, les joueurs.
Intrinsèquement blasphémateurs, vous dites le marin, aux yeux de beaucoup.
Alors, les marins blasphémateurs, ce sont en fait des marins qui sont jureurs plutôt, qui utilisent des expressions langagières qui sont des expressions familières, qui sont des expressions qu'on peut considérer comme grossières, mais qui sont rarement des blasphèmes.
Tonnerre de Brest, ce n'est donc qu'un juron, ce n'est pas un blasphème, pour rester
mais
un très
c'est-à-dire instant. Que tonnerre de Brest, c'est une euphémie.
Alors,
c'est une euphémie, c'est probablement tonnerre de Dieu.
Alors, c'est pas un blasphème.
Et tonnerre
caché.
De Dieu, est-ce que c'est un blasphème? Ça correspond à quoi? Pas exactement.
Ça peut être un hommage à la toute-puissance divine.
Absolument. Par contre, quand au cours d'une enquête sociologique, un collègue justement de Nantes avait interrogé les pêcheurs des Sables d'Olonne, et parmi les pêcheurs des Sables d'Olonne, il y en avait un qui disait qu'il était habitué à blasphémer régulièrement lorsque la pêche était mauvaise, et il s'adressait à Dieu en disant « Descends, vieux bouc !» Alors ça, on peut considérer que ça peut être comme un blasphème, mais en même temps, vous le voyez, une sorte de familiarité avec Dieu, en définitive.
Vous voulez dire que ce serait une sorte d'hommage à son existence certaine que de se permettre
À partir du moment où on s'adresse à Dieu en disant « Descends, vieux bouc !», ça veut dire qu'on croit que Dieu existe. Alors évidemment, c'est une manière... probablement très familière de s'adresser à lui, mais c'est une sorte de reconnaissance.
C'est une connivence, en somme, indirecte.
Oui, c'est ça.
Et vous diriez la même chose de ce sur Terre, de ce cavalier que vous évoquez, qui en 1596, devant le camp d'Ardres, trouvant sa monture détachée, s'était écrié « Je renie Dieu, tête Dieu, qui a été ce bougre qui a délié mon cheval ?» Il a été puni pour ça.
Il a été puni.
Blasphème.
Pourtant, je ne crois pas qu'on puisse considérer cette expression comme un blasphème. Bien sûr, c'est un blasphème dans sa construction, pas forcément une remise en cause de l'existence de Dieu. C'est pas simplement une invective à l'égard de Dieu, c'est une expression engagière.
Oui, mais enfin, néanmoins puni pour sa signification même. Avec l'idée qu'on trouve très présente dans les populations que vous étudiez, qu'il pourrait être influencé par Satan, devenir des instruments du diable, se donner au diable en choisissant contre Dieu.
Oui, alors ça c'est un autre aspect. On a souvent considéré que les blasphémateurs étaient des possédés de Satan. En général, lorsque on blasphème, on peut aussi dire, par exemple, je préfère Satan à Dieu. Quand on dit que le diable m'emporte, est-ce que c'est un blasphème? Probablement.
Attendez. Tout à l'heure, vous allez retrouver cette formule, vous ne le savez pas encore, dans une chanson de Béranger. Mais restons un instant dans ce 17e, ce 16e ou ce 17e siècle et la manière dont, à l'époque, on considère le blasphème. On est frappé aussi, à vous lire, par le fait que la violence, notamment le duel, s'appuie sur le blasphème. Que le blasphème provoque non seulement l'éventuelle punition par les autorités ecclésiastiques et politiques, mais souvent la réaction très violente de quelqu'un qui veut défendre Dieu contre le blasphémateur.
Oui, alors ça c'est une autre catégorie qu'on retrouve assez souvent, à côté des marins, à côté des soldats, on retrouve stigmatiser les duellistes et les gens qui écrivent contre le duel, très souvent consacrent une partie de leur travail à dire que lorsque le duelliste est en train de mourir, au lieu de se repentir, alors qu'il va mourir sans sacrement, eh bien, il blasphème, il jure, il injurie Dieu comme une espèce de malédiction.
À propos de tout ça, en tout cas, j'ai envie de vous citer Pierre de l'Étoile, le contemporain d'Henri IV, qui, dans son journal, présentait l'entourage du bon roi comme une association d'acteurs immoraux. Il n'était pas si favorable. Il deviendra plus favorable à Henri IV après la mort de celui-ci, paradoxalement. Des acteurs immoraux qui pratiquent tout à la fois, je cite, « duel, puterie et macrelage. Le jeu et le blasphème, ils sont en crédit. La sodomie y règne tellement qu'il y a presse à y mettre la main aux braguettes. »
Oui, alors là, évidemment, c'est un raccourci extraordinaire chez Pierre de l'Étoile, parce qu'il y a effectivement la notion à la fois de morale sexuelle, mais aussi le rapport entre blasphème et jeu, vous l'avez évoqué à l'instant. On trouve là une autre catégorie importante, une autre figure, c'est le joueur.
Alors avant d'y venir, Alain Cabantous, cet extrait de l'œuvre de Rabelais qui rivalise, si je puis dire, ex ante avec l'imagination de Georges Brassens. C'est un extrait de Tire ta langue, 13 novembre 1996, France Culture.
Carimari, Carimara, je renie Dieu. Peau cap de Bius, ventre Saint-Quenet, ventre Gois, par Saint-Fiac de Brie, Saint-Traignant. Je fais vœu Saint-Thibaud, Pâques Dieu, le bonjour Dieu, le diable m'emporte. Par Saint-Andouille, par Saint-Gottegrain, qui fut martyrisé de pommes cuites, par Saint-Foutin l'apôtre, Nadia Madia, par Sainte-Mamie.
Ce texte est élu par Bernard Bouillon. Voilà une nouvelle liste qui n'est pas sans verdeur.
Oui, et c'est une liste qui concerne aussi les saints, cette fois-ci. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans, je dirais, le catholicisme en tous les cas, le blasphème, c'est une injure à l'égard de Dieu, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi, ça c'est le blasphème immédiat. Mais il y a aussi le blasphème média,
c'est-à-dire
le blasphème à l'égard de la Vierge, par exemple, ou à l'égard des saints. Et lorsque Rabelais nous fait une liste de saints plus ou moins imaginaires, il met à la fois l'accent sur, je dirais, le culte des saints qui s'est développé de manière considérable, avec une invention de saints plus farfelus les uns que les autres, et en même temps, il souligne bien qu'il peut y avoir là une autre forme de blasphème à l'égard de personnages qui sont censés être des modèles pour les chrétiens.
Alors vous évoquez les joueurs, il semble que les blasphèmes fleurissent à l'époque de l'Ancien Régime dans les milieux de joueurs, peut-être parce que lorsqu'ils perdent, les joueurs ont besoin d'exprimer leur fureur et d'une certaine façon leur antagonisme, leur rancune à l'égard d'un sort qui s'identifie à Dieu et qui les a fait perdre.
Oui, tout à fait. C'est un élément essentiel lorsque les dictionnaires, par exemple, définissent les blasphémateurs, ils désignent toujours comme exemple les joueurs.
Furtière, dans son dictionnaire universel, écrit « blasphémateur qui blasphème ». Bon, ça, on aurait pu trouver tout seul. Il ajoute « le jeu est défendu chez les Turcs à cause des jureurs et des blasphémateurs ».
Parce que les gens qui jouent, d'abord, font des paris, mais des paris qui nécessitent l'aide de Dieu. Dieu, aide-moi à gagner. Autrement dit, qui force, je dirais, le futur. Et en même temps, lorsqu'ils perdent, évidemment, ils accusent Dieu d'avoir fait perdre.
Vous pensez, je ne fréquente pas, je l'avoue, les cercles de jeu aujourd'hui, peut-être vous, Alain Cabantous, vous pensez,
non,
que cela est,
pas
vous pensez
vraiment,
que tout cela,
pas.
D'après vos informations, tout cela est toujours vrai, on y blasphème beaucoup?
Je ne crois pas. Je crois qu'on ne blasphème plus. Ou tout au moins, une fois de plus, dans l'acception classique qu'on essaye de débrouiller depuis un certain temps. Montesquieu, d'ailleurs, le disait déjà au XVIIIe siècle, hein. Aujourd'hui, on ne blasphème plus, ça veut dire que la place de la religion a beaucoup diminué.
Tout cela donne le sentiment qu'il y aurait une sorte d'unicité d'un monde, peut-être. Le monde du mouvement, le monde du risque, où on blasphémerait davantage à cause des va-et-vient de la surprise, de la chance, du mystère du hasard.
Oui, alors c'est vrai que les figures dont on a parlé depuis un petit moment, c'est-à-dire les marins, les soldats, les joueurs, les duellistes, sont des gens qui échappent au XVIe, au XVIIe, voire même au XVIIIe siècle, à une emprise cléricale, qui échappe très souvent à un encadrement de la civilisation chrétienne qui se développe avec les réformes, contre-réformes ou réformes protestantes.
Les prêtres sont beaucoup plus présents dans la vie de gens qui sont sédentaires que
oui,
dans ceux qui bougent par profession, par choix.
C'est vrai, et il y a un effort de fait, à la fois dans l'éducation, dans les petites écoles de village, dans les collèges, pour châtier la langue. Et châtier la langue, c'est une sorte de discipline aussi qui permet d'éradiquer, on le pense en tous les cas, le blasphème. Et ces gens-là y échapperaient ou y échappent.
Gens du voyage, gens de la différence,
c'est
gens
vrai.
Du mouvement.
C'est vrai, mais en même temps, lorsqu'on regarde les archives judiciaires, on se rend compte que les figures dont on vient de parler ne sont pas particulièrement importantes, que en fait, le blasphème, c'est la chose du monde la mieux partagée.
Vous avez l'air de nous dire que le XVIIIe siècle voit le blasphème perdre de sa virulence, en tout cas en tant qu'objet de dénonciation et de punition. Et pourtant, Napoléon, en 1810, fait encore une loi contre le blasphème. C'est la dernière fois en France.
On retrouve, si vous voulez, ce qui se confirme au cours du XVIIIe siècle, c'est que désormais, ce n'est pas tant le blasphème qui est puni, que le blasphémateur. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le blasphémateur, c'est quelqu'un qui trouble l'ordre public. Et on se rend compte qu'au cours du XVIIIe siècle, d'abord, si je puis dire, grâce à Dieu, il y a de moins en moins de gens qui sont condamnés uniquement pour blasphème, hormis évidemment cette affaire terrible du chevalier de la Barre, mais que le blasphème est une circonstance aggravante. Aggravante parce que, par exemple, un homme qui bat sa femme ou quelqu'un qui a trucidé un voisin l'a fait. Très souvent, c'est ce que disent les témoins, en blasphémant. Et donc, évidemment, lorsqu'on blasphème, ça aggrave la chose.
Mais Napoléon, néanmoins, prévoit que le blasphémateur puisse avoir le poing coupé. Rien que ça, 1810. Et puis, il y a en 1825, une législation un peu voisine, qui est celle sur le sacrilège, qui provoque dans les chambres, à l'époque de Charles X, beaucoup d'émotions, beaucoup de débats, d'ailleurs d'une grande qualité. Une loi qui est finalement adoptée et qui prévoit la mort pour ceux qui auraient, par exemple, eu un comportement sacrilège à l'égard des hosties consacrées. Ce qui amène aussi une réflexion sur les liens entre blasphème et sacrilège.
C'est pas tout à fait la même chose.
Oui, je voulais vous le faire dire.
Alors, voilà, le sacrilège, c'est un geste en général. C'est un geste contre, évidemment, ce qu'on peut considérer comme sacré. alors que le blasphème est de l'ordre, généralement, de la parole et de la parole publique. Et de la parole publique.
Cette loi a été abolie dès l'arrivée de la monarchie de Juillet en 1831. Oui, c'est plutôt une sorte de but témoin. Ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est la question de la relation entre le blasphème et une certaine déchristianisation sur la longueur du XXe siècle. La déchristianisation, en tout cas dans les pays à dominante catholique ou à dominante chrétienne. Et cela, finalement, ramène au problème des relations entre le blasphème et l'athéisme, dont nous n'avons encore guère parlé, même si en Irlande, ce sont les athées proclamés comme tels qui ont protesté contre la loi qui était à l'origine de notre conversation. L'association Atheist Ireland, l'Irlande athée, a en effet expliqué qu'il y avait de toute façon beaucoup de gens qui étaient blasphémataires. Par exemple, et il disait Jésus lui-même dans ce passage de l'Évangile selon saint Jean, quand il attaque le judaïsme, une religion. « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il est menteur et le père du mensonge. » Et puis ce groupe citait aussi le pape Benoît XVI dans sa fameuse conférence de 2006 où il avait cité un empereur byzantin selon lequel, je cite, « Mahomet n'avait apporté que du mauvais et de l'inhumain. » Il citait même la chanteuse Björk disant que les bouddhistes aillent se faire foutre. C'est elle qui a la responsabilité de ce propos, sans compter Salman Rushdie. On est là vraiment à la rencontre entre l'athéisme et le blasphème.
Oui, alors, première chose, c'est qu'en fait, il faut quand même aussi se rappeler que Jésus a été condamné à mort pour blasphème. Ça, c'est quand même une chose importante. Et puis, deuxième chose, théoriquement, il y a une antinomie entre blasphémateur et athée. Théoriquement, un athée ne blasphème pas, puisque un athée ne croit pas en Dieu. Et blasphémer, c'est quand même, d'une manière ou d'une autre, reconnaître en creux une croyance. C'est un peu ça.
Bon. C'est toute la question que pose le très célèbre passage du Don Juan de Molière, quand il dialogue avec le mendiant.
Un petit mot, s'il vous plaît. Enseignez-nous un peu le chemin qui mène à la vie.
Vous n'avez qu'à suivre cette route, messieurs, et détourner à main droite quand vous serez au bout de la forêt.
Mais je vous donne avis que vous devez vous tenir sur vos gardes. Que depuis quelque temps, il y a des voleurs ici autour.
Je te suis bien obligé, mon ami. Et je te rends grâce de tout mon cœur.
Si vous vouliez, monsieur, me secourir de quelques mots.
Ton avis est intéressé à ce que je vois.
Je suis un pauvre homme, monsieur, retiré tout seul dans ce bois depuis 10 ans, et je ne manquerai pas de prier le ciel qu'il vous donne toutes sortes de biens.
Prie donc le ciel qu'il te donne un habit, sans te mettre en peine des affaires des autres.
Vous ne connaissez pas monsieur, bonhomme. Il ne croit qu'en 2 et 2 sont 4 et en 4 et 4 sont 8.
Quelle est ton occupation parmi ces arbres?
De prier le ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose.
Ils ne se plaindront pas que tu ne sois bien à ton aise.
Hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde.
Tu te moques. Un homme qui prie le ciel tout le jour ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires.
Je vous assure, monsieur, que le plus souvent, je n'ai pas un morceau de pain à mettre sous les dents.
Voilà qui est étrange. Et tu es bien mal reconnu de tes soins. Je m'en vais te donner un louis d'or tout à l'heure, pourvu que tu veuilles jurer.
Oh, monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché?
Tu n'as qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or ou non. Tiens. En voici un que je te donne, si tu jures. Il faut jurer.
Monsieur.
À moins de cela, tu ne l'auras pas.
Va, va, jure un peu, il n'y a pas de mal.
Tiens, le voici, prends. Prends, te dis-je, mais jure donc.
Non, monsieur, j'aime mieux mourir de faim.
Va, va, je te le donne. Pour l'amour de l'humanité.
Alain Cabantous, c'était un enregistrement du Don Juan du TNP en 1954. Et vous avez reconnu les voix de Jean Villard dans le rôle de Don Juan, dans le rôle titre, Georges Riquier dans le rôle du mendiant et brièvement Daniel Sorano qui jouait Scannarelle. C'est un texte d'une extrême violence à le réentendre.
Il est probable que cette scène ne soit pas tout à fait imaginaire. Molière s'est probablement inspiré de ce qui est arrivé à Toulouse.
Un libertin,
comme on disait, le chevalier de Roquelaure, qui, semble-t-il, aurait provoquer un mendiant, car s'il s'agit bien d'une provocation, Don Juan, là, joue. C'est un joueur. Il va perdre. Il va perdre, puisque le mendiant ne va pas jurer. D'ailleurs, il emploie le... Vous voyez, il emploie le mot « jure » et non pas « blasphème ». Mais enfin, c'est bien cela dont il s'agit. Hein. Don Juan lui demande trois fois. C'est trois fois qu'on retrouve, évidemment, comme écho à un certain nombre de textes bibliques. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas dans cette scène que Don Juan prouve son athéisme.
Le spectateur le connaît, cet athéisme.
Voilà, le spectateur le connaît. Précédemment, il a dit « moi, je ne crois que 2 et 2 font 4, et 4 et 4 font 8 ». Bon.
Juste avant.
Juste avant.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pu penser que Don Juan ne blasphémait pas parce qu'il ne croyait pas voilà. En Dieu. C'est peut-être pour ça aussi que le roi a protégé Molière,
tout à
a empêché l'interdiction.
Vous avez raison, je crois. Vous avez absolument raison. Effectivement, c'est bien cela dont il s'agit. C'est la provocation. C'est la provocation d'une croyance. C'est de savoir jusqu'où le croyant peut aller. Et ce qui est extraordinaire dans cette scène, c'est d'abord que ce mendiant préfère rester pauvre et ne pas renier sa foi, et que Don Juan, dans cette formule extraordinaire, me semble-t-il, qui ouvre à toute une série de réflexions qui auront lieu plus tard, lui donne quand même cette pièce pour l'amour de l'humanité. Et c'est donc là, hein, me semble-t-il, un passage, un glissement essentiel de l'amour de Dieu à l'amour de l'humanité. De la charité chrétienne à la philanthropie, en fait. On est déjà à ses racines, là. Et c'est pour ça que cette scène me paraît à la fois exemplaire et merveilleuse.
Et prodigieusement actuelle, en somme.
Tout à fait.
Il y a une sacralité des droits de l'homme.
Ah, voilà. Et on revient à ce que disait Philippe Val tout à l'heure, enfin, dans l'interview que nous avons entendue tout à l'heure. C'est bien ça. C'est bien là un droit de l'homme qui est mis en valeur.
Alors, il y a un autre registre, peut-être moins élevé, qui est celui de... Du blasphème comme forme de l'anticléricalisme. Là, on n'est pas dans le domaine théologique ou philosophique, on est dans le concret de la vie des sociétés. Je vais vous faire entendre une chanson qui a valu à son auteur d'être emprisonné dans les premières années de la Restauration, sous le règne de Louis XVIII. C'est une chanson qui s'appelle « Le bon Dieu », interprétée par Germaine Montero.
Un jour le bon Dieu s'éveillant fut pour nous assez bienveillant. Il mit le nez à la fenêtre, leur planète a péri peut-être. Dieu dit et l'aperçoit bien loin, qui tourne dans un petit coin. Si je conçois comment on s'y comporte, je veux bien, dit-il, que le diable m'emporte. Je veux bien que le diable m'emporte. Blancs ou noirs, gelés ou rôtis, mortels que j'ai fait si petits, dit le bon Dieu d'un air paterne, on prétend que je vous gouverne, mais vous devez voir, Dieu merci, que j'ai des ministres aussi. Si je n'en mets deux ou trois à la porte, je veux mes enfants que le diable m'emporte, je veux bien que le diable m'emporte. Pour vivre en paix, vous ai-je en vain donné des filles et du vin à ma barbe, quoi, des pygmées, m'appelant le dieu des armées, ose t'en invoquant mon nom. Vous tirez des coups de canon. Si j'ai jamais conduit une cohorte, je veux mes enfants que le diable m'emporte. Je veux bien que le diable m'emporte. Que font ces nains si bien parés sur des trôneuses à clous dorés, le front huilé, l'humeur altière, ces chefs de votre fourmilière disent que j'ai béni leurs droits et que par ma grâce ils sont rois. Si c'est par moi qu'ils règnent de la sorte, je veux mes enfants que le diable m'emporte, je veux bien que le diable m'emporte. Thank you. m'en veuillez donc plus, les bons cœurs seront mes élus. Sans que pour cela je vous noie, faites l'amour, vivez en joie, narguez vos grands et vos cafards. Adieu, car je crains les mouchards. À ces gens-là, si j'ouvre un jour ma porte, je veux mes enfants que le diable m'emporte. Je veux bien que le diable m'emporte.
C'était Le bon Dieu de Béranger, une chanson qui a valu à son auteur d'être incarcéré pour, je cite, avoir commis le délit d'outrage à la morale publique et religieuse. Car il y a à la fois, en effet, dans ce texte, offense à la royauté en même temps qu'au sacré de la religion.
C'est un très beau texte. C'est vraiment un texte qui illustre parfaitement, d'abord, ce que peut être, je dirais, la résistance à l'importance que reprend le catholicisme dans la France de la Restauration.
Au moins en surface, au moins en apparence.
Au moins en surface, mais en tous les cas, l'alliance du trône et de l'autel n'est pas quand même un vain mot à ce moment-là. Et puis, on voit bien que Béranger remet en cause les images de Dieu et les images du christianisme et les usages que les hommes en font. En réalité, la dernière strophe est assez intéressante puisque tendrait à vouloir associer le bonheur que peut apporter la croyance, même la croyance en Dieu, avec l'image même que Béranger peut se faire de Dieu.
Les bons cœurs seront mes élus, sans que pour cela je vous noie. Faites l'amour, vivez en joie, narguez vos grands et vos cafards, la royauté et les prélats.
Et puis, dernière chose, c'est que Dieu blasphème. Ça, c'est assez intéressant. Dieu blasphème en disant « je veux bien ». Que le diable m'emporte. D'ailleurs, c'est le refrain à chaque fois. Je veux bien que le diable m'emporte. Et quand on disait que le diable m'emporte, et bien entendu, c'est une expression qui nie le salut par la divinité, par Dieu.
Et vous voyez un écho assez naturel à notre époque avec ce qui a été considéré comme blasphématoire par un certain nombre de musulmans.
Ce qui se passe effectivement, c'est que c'est toujours la dénonciation. Peut-être à travers ce que certains considèrent comme blasphématoire, la démonstration de la manipulation de Dieu. Dans le christianisme, par exemple, Dieu n'est pas le Dieu des armées. Enfin, donc c'est l'usage qu'on en a fait. Et peut-être, en réalité, ce que les intégristes aujourd'hui, de tout poil, veulent présenter de l'image de Dieu ne correspond pas peut-être à l'esprit même de l'Écriture.
À ma barbe, quoi des pygmées, m'appelant le dieu des armées, ose en invoquant mon nom, vous tirez des coups de canon.
Et oui, voilà, c'est ça. On est là dans la manipulation des images de Dieu. Alors qu'on soit d'accord ou pas, c'est un autre problème. Mais Béranger là, ne blasphème pas. Autrement dit, il est peut-être plus près de l'esprit des Écritures que beaucoup d'autres, que les cafards qu'il dénonce ou que les rois qu'il dénonce.
Eh bien, ce sera notre dernier mot. Merci Alain Cabantous. Votre ouvrage s'intitulait « Histoire du blasphème en Occident, 16e-19e siècle », publié par Albin Michel en 1998. Nous allons encourager vivement votre éditeur à en faire une réédition, par exemple sous forme de livre de poche, pourquoi pas.
Pourquoi pas, c'est une bonne idée.
Samedi prochain, vous voyez les troubles nouveaux qui sont en train de parcourir l'Italie. Eh bien, avec Marc Lazare, éminent spécialiste de ce pays voisin et ami, nous parlerons du spectre des années de plomb chez nos voisins transalpins. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, réalisation de Patrick Molinier, avec la collaboration toujours efficace de Meryl Moneghetti et avec Eva Bester, Jérôme Bonnetin, Pierre Monteil et Hervé Evano pour les Archivinats.